10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h, je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver durant toute la semaine, chaque jour pendant une heure, en compagnie de ma camarade Ombline. Comment allez-vous ma chère?
Ça va bien, bonjour Olivier,
le week-end
bonjour
a été
tous.
Bon?
Excellent.
Bon, très bien.
Merci.
Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car Europe 1 s'intéresse à vous, s'intéresse à votre vécu. Un handicap, une maladie physique ou mentale, un bégaiement, avoir... Porter une différence est un combat de tous les jours. Être hors norme, c'est faire face aux moqueries, au regard des autres, aux soins hospitaliers aussi. Malgré tout, ils sont nombreux aujourd'hui à faire de leur différence une force à travers un métier, une discipline ou une activité. Ils sont devenus sportifs ou cuisiniers malgré leur handicap, d'excellents orateurs aussi malgré leur bégaiement. Mais comment y arriver? Quelles ressources avons-nous lorsque l'on est hors norme? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et on vous écoute au 39-21 comme chaque jour. C'est le standard d'Europe 1. 39-21, 50 centimes la minute. Twitter pour nous écrire hashtag Europe 1. Et puis bien sûr, le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons d'abord Julien sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Julien, soyez le bienvenu.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors je vous appelle de Lyon et j'ai 27 ans depuis une semaine.
Eh bien bravo déjà, une semaine en retard, bon anniversaire Julien. Alors avant que nous parlions ensemble, ça c'est vous.
Il faut bien avoir conscience que le bégaiement, c'est pas qu'une surface visible. On a une partie émergée et une partie immergée. Quand je prenais la parole, parfois je bloquais, donc les autres entendaient que je bloquais. Il y avait des sourires, des incompréhensions et parfois des moqueries. Ça, c'est la surface visible, le bégaiement. Cependant, il y a une partie bien plus importante et bien plus difficile à vivre, c'est la partie en dessous, tout ce que les autres ne voient pas. On y retrouve la peur, la honte, la culpabilité, l'anxiété, le désespoir ou encore l'isolement.
La peur, la honte, le désespoir, l'isolement. Parlez-moi tout d'abord de ça, Julien.
Alors, par où commencer? En fait, je pense que vous l'entendez, je bégaye plus trop.
Non,
j'ai,
justement.
Enfin, disons que j'ai... Enfin, je suis passé un petit peu au-dessus de tout ça en étant suivi, etc. Et le bégaiement, il s'est manifesté à partir de 8-9 ans. Mmh. J'avais du mal à parler. Alors, on ne va pas dire que je n'arrivais pas du tout à parler, mais j'avais des soucis à commencer les débuts de phrases, etc.
Ouais.
Et c'est marrant parce que vous avez pris l'exemple. En fait, je fais des vidéos sur Internet, etc. Mmh.
Sur YouTube, vous avez aujourd'hui plus de 50 000 abonnés.
Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est marrant, donc ce que je dis dans le petit extrait qu'on a entendu, c'est que en fait, le bégaiement, c'est un petit peu une surface. Enfin, c'est un petit peu comme un iceberg. Il y a une surface visible, donc c'est tout ce que les gens entendent, donc les blocages, les accros, les rougeurs, etc., etc. Et il y a toute la partie invisible.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment le stress au quotidien, le fait de réfléchir avant de prendre la parole, etc., etc. Et
S'adresser ouais. aux autres, prendre la parole publiquement comme ça, comme vous le faites sur YouTube, ça a dû vous faire peur au début, non?
Alors en fait, c'est allé crescendo parce que depuis tout petit, en fait, j'adore faire des vidéos.
Oui.
Je me rappelle avec mon frère, on passait des journées entières à se filmer, etc., etc. C'était quelque chose que j'adorais.
Mm-hmm.
Et en fait, avec l'adolescence, j'ai laissé de côté cette passion parce que je m'assumais pas, j'avais peur, etc. Et au final, il y a 5 ans, je me suis lancé un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc, j'y suis allé de manière progressive. J'ai lancé un premier blog qui a bien marché. Donc, ça fait depuis 5 ans que je vis de ce blog. Et petit à petit, en fait, j'ai voulu me renouveler. Et j'ai voulu m'accepter et faire ce qui me faisait kiffer, donc c'était la vidéo. Et la première fois que je me suis exposé sur Internet en affichant mon visage, ma voix, etc., c'est sûr que c'était compliqué.
Mmh.
Et puis après, ça allait crescendo, j'ai commencé à me lâcher. Et puis maintenant, je suis totalement moi-même et je me lâche et j'ai aucune appréhension.
Mmh. Et est-ce que, à votre avis, ce bégaiement que vous aviez à un moment, mais qu'on ne sent pas tout à fait hein, sur les vidéos que vous faites, il n'y a que vous finalement qui en avez fait une force, parce que si on vous suit aujourd'hui, c'est parce que vous, vous le racontez ce bégaiement, mais on le sent très peu sur vos interventions sur YouTube. Or, vous en parlez, vous parlez beaucoup de votre passé finalement.
Disons que le format que j'ai adopté sur YouTube, c'est le format vlog. Donc ouais. En gros, un vlog, on va dire que c'est le fait de raconter un petit peu sa vie mm-hmm. de manière illustrée. Donc ouais. Je filme un petit peu tout ce que je fais de manière créative. Mmh. Et j'ai commencé à parler un petit peu de ce que je faisais, de mon boulot, etc. Puis c'est allé un petit peu sur le côté perso. Et finalement, le fait de parler du bégaiement, ça m'a enlevé un poids, ça m'a fait du bien.
Ouais.
Et la vidéo que j'ai faite, donc c'est une vidéo où j'expose pour la première fois ce bégaiement. Devant tout le monde, parce qu'avant j'en parlais très peu, il n'y avait que quelques amis et ma famille qui le savaient. Mmh. Et depuis, en fait, j'en parle pas tellement,
ouais.
mais je sais que c'est une vidéo qui a fait énormément de bien à beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés, qui bégayent ou qui aient une autre forme d'handicap dans ce que je disais. Et finalement, aujourd'hui, je suis plus en mode un petit peu, j'ai vaincu le bégaiement et j'expose un petit peu, ce que j'arrive à faire, ce que j'ai réussi à vaincre devant tout le monde.
Et c'est devenu une véritable force. Avant de vous quitter, Julien, on peut vous trouver où ? Donnez-moi votre blog, on vous trouve où ?
Alors, aujourd'hui, le blog, il est un petit peu arrêté. On me trouve sur YouTube.
Ouais.
Donc, vous tapez Julien Fabreau sur YouTube.
Comment
ou Bégaiement Julien.
Fabreau,
F-A-B-R-O.
D'accord. Fabreau. Julien Fabreau.
Voilà.
Et puis, on peut voir... votre expérience de vie, comment vous avez fait de votre différence, ce bégaiement, une force. Et on vous retrouve aujourd'hui avec 50 000 personnes qui vous suivent et plus bientôt. Mille merci pour votre témoignage au 3921. Julien, dans quelques instants, nous accueillerons Adama. Il est albinos et on a fait une force en devenant mannequin.
Europe 1. Comme Julien, comme Adama qu'on va entendre, vous avez fait de votre différence une force. Vous nous racontez votre histoire au 3921. Écrivez-nous via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Sur Europe 1 et nous intéressons aux personnes hors normes. Vous êtes atteint d'autisme, d'un handicap, d'une maladie, vous avez été victime d'un accident. Quelle est votre histoire ? On vous écoute au 3921.
Et nous avons eu Julien au 3921 qui nous expliquait que le bégaiement avait été longtemps synonyme de solitude, de peur, d'exclusion et que de ce bégaiement, il avait fait une force. Nous devions avoir Adama au téléphone que nous n'arrivons pas pour l'instant à joindre. Mais ce n'est pas grave puisque nous avons Yves au 3921. Bonjour Yves, soyez le bienvenu.
Bonjour. Bonjour à toutes les auditeurs d'Europe 1.
Vous avez quel âge Yves et vous nous appelez d'où ?
Alors, 51 ans, j'appelle de Lambersart, près de Lille. Mmh.
Alors, on parle de cette différence dont on fait une force. Laquelle est-ce pour vous, Yves ?
Moi, je suis donc non-voyant.
Oui. Hein,
je n'ai pas d'emploi. Et c'est très compliqué. C'est-à-dire que à notre époque, on n'apprenait pas trop l'informatique. Bon... c'était des métiers, c'était soit accordeur de piano, remplisseur de chaises ou standardiste. Mmh. Et je n'ai pas trouvé d'emploi, donc j'ai décidé de venir en aide aux gens.
Oui.
C'est-à-dire en créant des associations. Je suis président de l'Union des déficients visuels, hein, une association qui a pour but d'aider les non et malvoyants dans leur vie quotidienne et sociale.
Oui.
Et pour qu'ils aient accès à la culture. Et puis, je m'occupe d'une autre association qui vient de changer de nom, qui s'appelle Handicap et Citoyenneté, mmh. Où là, il y a tout type de handicap confondu. Hein. Et je suis aussi administrateur au centre social dans ma commune.
Mmh. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait de votre handicap une force pour vous et puis aussi pour les autres ?
Oui, pour les autres, surtout.
Mm-hmm.
Pour les autres, parce que prouver... Vous savez, si vous faites une erreur... Hein, je dis, j'étais conseiller municipal de mandat, et si vous arrivez en retard, c'est pour ça que je n'arrivais jamais en retard, ou si vous faites une erreur, on va dire « Ah, c'est à cause de son handicap, il n'y a pas réussi », tandis qu'une autre personne va dire « Bon, ben, il y a du retard, c'est pas bien grave. Hein. »
Mm-hmm.
Bon, voilà. Il faut travailler deux fois plus que les autres pour pour y arriver, si vous voulez. Mmh.
Qu'entendez-vous par là ? Est-ce que vous entendez par là que le handicap est vécu comme une faiblesse ou un moins par rapport aux autres ?
Oui, tout à fait. On nous dit, par exemple, si vous voulez prendre la présidence d'une association, mais ben, il ne voit pas comment il va faire. Ben, on fait comme tout le monde. Mmh. Et en étant acharné et convaincu, on peut arriver à faire pas mal de choses. Alors oui, pour moi, c'est une force parce que d'abord, je vais vers les personnes et comme je dis, je peux peut-être vous aider à y voir plus clair. Mm-hmm. Il faut avoir beaucoup d'humour aussi.
Justement, Yves, je m'arrête sur ce que vous venez de dire. Comment il va faire puisqu'il ne voit pas ? Est-ce que, à votre avis, justement, vous démultipliez les efforts, les qualités parce que vous avez ce handicap et que finalement, au bout du compte, à côté d'une personne qui ne souffrirait pas de handicap, eh bien, vous développez des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus fortes.
Oui, tout à fait. D'abord, je suis très intuitive. Et justement, on ne voit pas la personne qui est en face de nous, donc on ne fait pas, je pense, par rapport au regard. Ah, t'as vu comment il est, comment...
Induit en erreur, en plus.
C'est ça. Mm-hmm. Comment vous dites
Pardon, excusez-moi.
J'ai pas compris votre...
Non, je vous demandais, selon vous, ce handicap, il fait de vous quel homme aujourd'hui ?
Vous savez, on a tous des défauts, des qualités, mais je pense que ça me permet de percevoir les choses autrement et plus naturellement.
D'accord. Ça fait de vous quelqu'un de plus intuitif, vous disiez. C'est important,
oui.
Ça. Parce que le handicap, normalement, est quelque chose qui est censé enlever, en tout cas amoindrir une personne. Or, on a l'impression en vous écoutant que vous avez comblé ce manque-là et en renforçant tout autour toutes les choses que vous aviez, vous. Est-ce que c'est cette impression-là que vous avez ?
Oui, c'est ça. Et puis, bon, ne travaillant pas, je peux mettre des choses en place pour aider les gens. Nous faisons des actions, d'ailleurs, notre association et d'autres associations de la commune pour le Téléthon, parce qu'il faut aller vers les autres, si vous voulez. Mmh. On ne doit pas rester en étant individualiste sur soi-même, replié sur soi-même. Il faut aller vers les autres. Et moi, je vous dis, j'aime aider les gens.
Ce qui est une chose énorme, de toute façon, quoi qu'il arrive, aller vers les autres. Moi, je peux me permettre de vous dire aujourd'hui, cet après-midi sur Europe 1, ça va dans le bon sens, ça. Ce qui serait inquiétant, c'est que vous me disiez que vous alliez à l'envers. Merci beaucoup, Yves, pour votre témoignage au 39-21. Bon courage pour la suite, hein, pour le Téléthon notamment, qui arrive très très bientôt. D'ailleurs, on fera une émission dans quelques jours sur le Téléthon. Nous serons dans quelques instants avec Alexandra Reynaud, qui est auteure de l'ouvrage « L'enfant atypique, hyperactif, au potentiel, 10 Asperger, faire de ces différences une force. »
Et il y a Kali qui nous écrit sur Facebook « Ce n'est pas une punition que d'être handicapé, c'est une chance comme une autre, du moins c'est ainsi que l'on devrait le voir. Un aveugle, un sourd développeront leurs autres sens, c'est une richesse. Un autiste, une personne trisomique nous donneront une vision du monde qui nous échappe. »
Europe 1.
Comment vivre avec une différence ? C'est votre cas, celui d'un proche. Quel est votre quotidien ? Quels sont vos combats ? On a envie de vous entendre sur Europe 1 au 39-21. On dit que ce sont des personnes hors normes. Vous vivez avec une différence. Comment en avez-vous fait une force, un atout ? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21 pour nous appeler.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Alexandra Reynaud. Bonjour madame, vous êtes l'auteur de l'ouvrage « L'enfant atypique, hyperactif au potentiel 10 Asperger, faire de sa différence une force ». Bonjour et soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci.
Bonjour. Alors Alexandra, vous avez été diagnostiquée à très haut potentiel intellectuel et autiste Asperger. Vous avez créé des blogs pour parler de ce que vous viviez. C'était important pour vous de partager tout ça ?
Oui, c'était important de le partager et surtout c'était important en fait pour moi de pouvoir amener quelque chose à l'origine de la création du premier blog en 2009,
oui.
Au tout début 2009, quelque chose qui n'existait pas du tout en fait. Aujourd'hui, il y a une multiplication honnêtement de blogs sur ces sujets-là, vraiment autant dans le haut potentiel que dans l'autisme. Il y a énormément de choses disponibles sur Internet, mais à l'époque, quand mon fils a été bilanté en 2008, fin 2008, il n'y avait pas grand-chose, voire même vraiment presque rien, si ce n'est des forums et puis des sites associatifs. Mais comme témoignage de gens, il y avait peu de choses. Et moi, j'ai voulu faire finalement ce qui m'aurait aidé à l'époque quand j'ai eu besoin de comprendre de quoi il s'agissait, tout simplement.
Et finalement, que pensez-vous du regard des autres ? Est-ce que, même s'il peut être blessant hein, par moment, est-ce que ce regard, ça n'est pas finalement celui qui aide à s'accepter et puis à mieux vivre sa différence et au final faire une force de tout ça ?
Moi, je pense que c'est justement ce regard qui blesse beaucoup, beaucoup les gens qui se sentent différents et oui. qui sont différents pour X raisons, du reste, quel que soit le type de différence. Je pense que c'est souvent le regard des autres qui blesse et qui endommage. Je ne crois pas que le regard aide forcément le regard des autres. Quand il est, évidemment, si c'est un regard bienveillant, ça va pouvoir aider. Mais je pense que la première chose, de mon point de vue, pour justement faire de cette différence-là, quelle qu'elle soit, ou quand on a plusieurs différences, ouais. Je pense que c'est déjà de comprendre ce qu'est cette différence, de mettre des mots, de toucher du doigt la réalité de cette différence. Parce que tant que ça n'est pas fait, tant qu'on n'est pas, on n'a pas identifié finalement quelle est la différence en question, qu'est-ce qui fait qu'on se sent comme ça si décalé, on se sent fou, on se sent pas à sa place, on ne comprend pas qu'on n'ait pas les mêmes réactions que les gens autour de nous. Et les gens nous le font bien sentir, d'ailleurs. C'est dans ce sens-là que je disais, le regard peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de mal, en fait. Mm-hmm. Je pense que plus que la différence, c'est pas tellement la différence en elle-même qui fait souffrir. C'est vraiment le regard des gens, le regard de l'extérieur, alors ça peut être de la famille, des enseignants, des amis, qui des fois sont pas forcément extrêmement... même s'ils se disent bienveillants, ça peut ne pas l'être. Par exemple, pour les personnes avec autisme, leur dire « mais fais un effort quand même, tu exagères », etc., ça n'aidera en rien, en fait.
Mmh. Alors justement, comment faire de sa différence une force ? Est-ce que ça commence par s'accepter ?
Oui, clairement. Et c'est pour ça que je pense vraiment que... Il faut comprendre, en fait, quand les gens identifient la ouais. raison de leur différence, en général, c'est un immense soulagement. Mm-hmm. C'est vraiment, je pense que c'est assez salvateur déjà en soi, en fait, de comprendre quelle est l'origine de cette différence. Mm-hmm. Ça participe au fait de s'accepter, et s'accepter, évidemment, ça arrange, je ne dis pas que ça arrange tout, mais en tout cas, ça débloque bien des situations parce que les gens vont revoir finalement toute leur vie, toute leur jeunesse, les interactions qui n'ont pas forcément des fois été pleines de succès, des événements qui se sont mal passés, à la lumière de cette nouvelle information. Et ça va leur permettre de comprendre en mmh. réalité ce qui a pu se passer, tout simplement. Mmh. Et en comprenant ça, ça aide aussi à avancer pour l'avenir parce qu'en identifiant sa différence, on identifie aussi ses points forts, finalement. Parce qu'une différence, souvent en France, on a tendance à penser différence dans le sens de moins, dans le sens de quelque chose en moins, mmh. quelque chose qui ne va pas. Et moi, je suis une grande... Je défends énormément l'idée de neurodiversité qui est assez peu connue en France, ouais. en tout cas qui prend pas énormément. Et dans l'idée de dire, voilà, on est tous différents, on a tous des particularités. Certaines personnes, donc moi, les particularités dont je parle plus spécialement, c'est des particularités neurobiologiques. Hein, il ne s'agit pas de maladies, il s'agit de particularités neurobiologiques. Donc les gens sont nés avec... Et il faut qu'ils arrivent à s'approprier cette réalité-là pour en faire quelque chose de positif.
S'approprier cette réalité, c'est comme vous le faites, Alexandra, aujourd'hui, cultiver cette différence et aussi, j'ai l'impression, c'est mon sentiment, la revendiquer. Merci beaucoup pour votre témoignage. Restez en ligne avec nous parce que nous allons accueillir Grégory Cuiron. Il a un handicap physique, mais cela ne l'a pas empêché de faire de la cuisine et d'en faire sa passion. Et puis d'en faire une personne que les uns et les autres aujourd'hui, vous qui nous écoutez, vous avez peut-être vu à la télévision.
Europe 1. Vous êtes hors norme, un handicap, une maladie, une différence. Racontez-nous comment vous faites de cette différence un atout. On vous attend au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous êtes hors norme. À quoi êtes-vous confronté au quotidien? Comment cette différence est devenue un atout? Vous témoignez, Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et nous étions avec Alexandra Reynaud qui nous expliquait dans la dernière partie de cette émission que cultiver sa différence et la revendiquer surtout était quelque chose d'important et s'accepter surtout. Nous sommes maintenant avec Grégory Cuiron. Bonjour Grégory, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Je rappelais ce que Alexandra avait dit, parce que j'ai l'impression que vous, c'est vraiment votre cas, s'accepter, revendiquer sa passion, ça a été quelque chose de très fort pour vous.
Ouais, alors l'acceptation, c'est certain. Bon, en plus, je suis né comme ça. J'ai pour coutume de dire que c'est pas parce qu'on est différent qu'on va se laisser mourir sur le bord de la route.
Ouais.
Après, d'un point de vue revendication, pas tant que ça. C'est-à-dire que je pense que moi, je suis pour l'égalité des traitements. Donc voilà, ça, c'est très important pour moi.
Ouais.
Mais je revendique pas plus que ça, quoi. Enfin, je pense qu'on est tout de même toujours le différent de quelqu'un d'autre.
Mmh. Alors, vous, Grégory, vous avez d'abord remporté en 2009 un concours. Un dîner presque parfait, le combat des régions sur M6. Et ensuite, vous avez participé à l'émission Top Chef. Vous êtes aussi né avec une argénésie. Hein. Pouvez-vous nous expliquer d'abord ce que c'est ?
Alors, c'est ce dont on a beaucoup parlé dans la presse ces derniers temps à propos de ce qui s'est passé dans l'Ain ou en Bretagne.
Ouais.
C'est que bah voilà, je suis né sans main gauche. J'ai le bras qui arrive 10 cm sous le coude, c'est-à-dire que j'ai le coude et j'ai l'articulation du coude, et puis voilà, quoi, ça n'a pas poussé,
d'accord.
Ça arrive.
Vous avez toujours voulu être cuisinier, Grégory ?
Pas du tout,
bon.
j'ai toujours adoré la cuisine, mais j'avais peur que la pratique à outrance m'altère la passion,
mm-hmm.
Et puis finalement, à l'issue de Top Chef, je me suis dit, mais t'es quand même... c'est une des rares activités au cours de laquelle tu ne vois pas le temps passer et qui te passionne réellement, pourquoi ne pas en faire un métier ?
Et justement, alors, cette passion, elle est venue comment, cette passion ? Elle est venue au fur et à mesure Expliquez-moi.
Alors, deux choses. La première, c'est la gourmandise. J'ai toujours adoré manger, donc au départ, la cuisine était un moyen et pas une fin en soi.
Ouais.
Ça l'est devenu par la suite.
Mm-hmm.
Et puis, j'ai eu la chance de voir beaucoup mes grands-parents, ma mère cuisiner. Et ça m'a influencé. C'est bon, je me ferais tous les jours, simple, hein, cuisine ménagère et tout, mais bon, et de saison. Et forcément, c'est quelque chose qui marque. C'est un petit côté Madeleine de Proust.
Est-ce que vous avez eu peur qu'à un moment, ce handicap vous empêche de pratiquer cette passion ?
Alors, jamais. Je peux avoir peur de plein de choses, mais j'ai jamais eu peur des obstacles. Parce qu'avant de m'arrêter, faut se lever de bonheur.
Mmh. Mais alors, avant de se lever de bonheur, hein, parce que ça veut dire plein de choses, se lever de bonheur, où est-ce que vous avez puisé cette force, ces ressources pour justement affronter ces obstacles ?
Bah, je pense que c'est dans mon caractère, je suis un peu buté, borné, c'est-à-dire que quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs, et,
ouais.
Et j'aime bien foncer. Si je sais que j'en suis capable, bah, je vais m'en donner les moyens. Après, c'est pas toujours évident de convaincre les autres de sa capacité, mais j'ai coutume de dire « encore rien n'est impossible », c'est pas faux. Après, bon, on peut avoir des obstacles un peu plus compliqués à des moments, il peut y avoir des moments où on y croit un petit peu moins, mais j'ai jamais cessé d'y croire et je me suis jamais interdit de faire quoi que ce soit du fait de mon handicap.
Alors aujourd'hui, vous animez des émissions de télévision. Être visible, est-ce que c'est montrer l'exemple en quelque sorte ? Est-ce que c'est aider les autres qui pourraient douter éventuellement de leur différence ?
Alors, encore une fois, je ne suis pas dans la revendication, c'est-à-dire que je n'ai pas la prétention de
Non,
de
sans revendiquer.
Autres, mais...
Sans revendiquer.
Bien sûr, mais justement, c'est ce que j'allais vous expliquer, c'est que moi, j'ai coutume de dire que c'est la télé qui m'a rendu handicapé, du moins dans le regard d'autrui.
Okay.
C'est-à-dire que je me rendais pas trop compte de ça. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de témoignages suite à mes premiers passages télévisuels de personnes en situation de handicap ou de membres de leur famille qui me disaient « Ouais, c'est super, grâce à vous, on se rend compte qu'on va pouvoir faire quelque chose dans notre vie.
Mm-hmm. »
Et là, ça m'a vachement interpellé, parce que je me suis dit « Mais s'ils ont besoin de voir un guignol à la télé pour croire en eux, c'est compliqué. » Et là, je me suis dit que oui, en effet, il y avait peut-être un rôle à jouer à ma petite échelle pour montrer que c'est pas parce qu'on était en situation de handicap qu'on n'était pas aussi compétent qu'un autre.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, je suis pas forcément pour la discrimination positive, mais je pense que on n'a pas suffisamment de personnes handicapées à la télévision, au cinéma, enfin visibles. Compte tenu de la proportion que ça représente dans la population française.
Merci Grégory pour votre appel et votre témoignage au 3921 et bonne continuation. Vous êtes où en ce moment ? On vous regarde où ?
Alors, on ne regarde pas la télé parce que j'ai rien. D'ailleurs, si jamais, hein, je suis disponible.
Mais l'appel est lancé.
On peut venir voir au restaurant. J'ai ouvert un nouveau restaurant depuis septembre, le comptoir Cécile à Lyon, dans le 2e arrondissement. Et voilà, j'y suis tous les jours.
Et la prochaine fois que je passe à Nyon, soyez sûr que je viendrai vous voir, mon cher. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage au 3921. Dans un instant, nous allons accueillir Virginie. Elle est maman d'un enfant atteint d'une maladie génétique musculaire et lui-même a voulu s'inscrire dans une agence de mannequins.
Et il y a Juliane qui nous écrit sur Facebook, être hors norme, avoir une différence, peut-être une force, mais peu de gens l'exploitent, à moins que la personne en situation de handicap soit bien entourée.
Europe 1.
Vous portez une différence, est-ce un combat, est-ce une force? Racontez-nous votre quotidien, votre histoire au 3921. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter, hashtag Europe 1. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des personnes hors normes, un bégaiement, un handicap, une maladie. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? C'est l'histoire d'un proche. Vous témoignez au 3921.
Julien, Yves, Alexandra et Grégory nous ont apporté leur témoignage aujourd'hui et nous ont montré combien cette différence pouvait devenir une force. Nous sommes maintenant en ligne avec Virginie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Virginie.
Bonjour,
vous êtes la maman de Baptiste qui a aujourd'hui 15 ans. Il est atteint d'une maladie génétique musculaire qui l'a paralysé. Il est en fauteuil depuis l'âge de 10 ans. Comment avez-vous vécu cette étape du fauteuil et lui?
Au début, on a l'impression que notre vie s'écoule un peu, hein. Que tout ce qu'on imaginait d'idéal est perdu et puis on est obligé de rebondir. Dans le cas de Baptiste, ça a plutôt été un soulagement, en fait, un moment de passer dans le fauteuil parce qu'il avait tellement de mal, en fait, à se déplacer. Oui. Qu'en passant sur le fauteuil électrique, il avait retrouvé quelque part une certaine autonomie et il pouvait aller où il pouvait dès que c'était accessible. Mmh.
Si je vous posais cette question, c'est que justement, il doit y avoir une phase où l'on passe par ne plus rien voir, se dire que tout est fini. Et puis, on entend dans ce que vous dites qu'enfin, il y a une étape, celle du fauteuil, où tout recommence. Est-ce que, lorsqu'il y a quelques mois, votre fils a voulu s'inscrire dans une agence de mannequins, NoCast, hein, je crois que c'est le nom de cette agence, est-ce que ça a marqué une étape de recommencement, quelque chose de recommencer quelque chose?
Oui, absolument, parce que quand votre fils a un handicap moteur, vous n'imaginez pas qu'il ait envie de s'inscrire dans une agence de mannequinat, alors que on imagine que tous les ados, quelque part, très, très focalisés sur leur physique, en rêveraient. Mon fils a eu cette énergie, il a été identifié, il a pu faire son book. Donc finalement, même si j'ai un handicap, je peux avoir des rêves qui sont des rêves d'adolescents normaux, entre guillemets.
Alors, lorsque j'ai appris l'existence de votre histoire, et celle de votre enfant, en fait, j'étais loin de m'imaginer qu'on pouvait s'inscrire dans des agences. Comment ça s'est fait tout ça? Expliquez-moi.
Oh, ça s'est fait très naturellement, en fait, handicap ou pas handicap, je pense que le circuit est le même. Et là, en fait, ce qui était génial, c'est qu'on a l'impression que d'être porteur du handicap était un critère positif.
Ouais.
Et ça, c'est vrai que ça change énormément parce que, au contraire, grâce à ce critère, j'ai pu faire quelque chose que je n'aurais pas fait si j'avais peut-être pas eu ce handicap. Donc, c'est inverser la tendance et en faire quelque chose de positif.
Mmh. Justement, votre fils dit qu'il vit des choses que les valides ne vivraient pas. C'est cette force-là aujourd'hui qui le rend heureux aujourd'hui.
Oui, je pense qu'en fait, il y a vraiment ce challenge de dire, il y a des choses que je n'ai pas choisies dans ma vie, mais pour tout ce qui est de ma volonté que je peux avoir moi, je veux que ce soit extraordinaire. Je ne veux pas avoir juste une vie moyenne. Moi, je veux aller à fond de mes rêves et vraiment faire tout ce dont j'ai envie. Et mon handicap, je le dépasse et j'arrive parfois même à le retourner pour en faire un avantage.
Cette détermination, elle existait avant ou elle est venue là? D'où elle vient, cette détermination?
Je pense que ça se construit, ça se construit au fur et à mesure des années. Je pense qu'on a toujours essayé de voir le côté positif, le fait qu'il faut croire en ses rêves. Je crois qu'il faut dépasser sa peur, c'est ça le plus compliqué. Et ce qui est important aussi, c'est le témoignage des autres. Baptiste fait aussi du sport de la compétition avec des personnes qui sont plus âgées que lui. Et le fait d'avoir des témoignages de parents ou de témoignages de personnes adultes porteurs d'un handicap qui ont des vies, qui ont un boulot, qui sont autonomes financièrement, qui ont construit une famille, je pense que tout ça, ça fait dépasser la barrière de la peur et de se dire, bah oui, il faut y croire et il faut y arriver.
Et porter le plus loin possible ses rêves, c'est ce que fait Baptiste et c'est ce qu'il fait en votre compagnie, Virginie. Merci pour votre témoignage. Pour conclure cette émission, nous allons accueillir Marie-Amélie, qui est une grande sportive qui, malgré son handicap, a gagné de nombreuses médailles aux Jeux paralympiques.
Europe 1. Comment bien vivre quand on est hors norme ? Comment faire pour que cette différence devienne une force ? C'est le cas d'un de vos proches. C'est votre histoire, Olivier Delacroix. Vous écoutez au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous retrouvez Olivier Delacroix et nous parlons des personnes hors normes cet après-midi. Comment une différence devient une force ?
Et pour conclure cette émission, nous sommes avec Marie-Amélie. Bonjour et soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Marie-Amélie.
Bonjour.
Bonjour, vous avez 30 ans et à votre actif, entre autres, vous avez 8 médailles reçues lors des Jeux paralympiques. J'ai un peu du mal parce que je voulais absolument mettre para-olympique, moi. Mais donc, ce sont les Jeux paralympiques. Vous avez pratiqué l'athlétisme depuis l'âge de 6 ans. Mais le 31 mars 2004, vous avez eu un accident. Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé ?
Oui, donc effectivement, en 2004, à l'âge de 15 ans, je suis renversée par une voiture. Pour moi, l'ambition à l'époque est d'être sapeur-pompier professionnel.
Oui.
Et finalement, du jour au lendemain, ma vie bascule puisque je perds une jambe à la suite de cet accident. Et c'est des rêves qui s'en vont et surtout la compréhension que voilà, la vie sera différente, mais qu'on avait toutes les cartes en main pour faire en sorte qu'elle ne soit pas moins belle. Mmh. Et le sport est arrivé en fait comme un moyen de se sauver et de définir de nouveaux objectifs.
Mmh. Est-ce que le cheminement a été long pour arriver à choisir de continuer à faire de l'athlétisme ?
Alors non, moi c'est vraiment une des premières choses que j'ai formulées en fait après mon accident auprès de mes proches.
Oui.
C'est cette volonté de repartir, de retrouver les terrains. Alors forcément de pas devenir championne paralympique au début, mais simplement voilà d'avoir une continuité dans les rêves. Et je pense que ça a été une chance que j'ai eue, c'est de pas baisser les bras, de comprendre encore une fois que la vie elle était différente, mais que voilà on avait vraiment la possibilité de la rendre tout aussi belle. Et surtout le fait de ne pas regarder dans le passé. Voilà,
vous saviez
des erreurs, mais...
Vous saviez que vous étiez capable, Marie-Amélie, quelque part. Vous saviez que vous alliez devoir réapprendre à courir. Où est-ce que vous avez puisé cette force ?
Je pense que c'est mon entourage en fait, qui m'a aidé à trouver cette force du quotidien, cette force de se battre. Et puis tout simplement l'amour de la vie, parce que de toute façon, si je ne m'étais pas battue, si je n'avais pas eu envie de regarder demain, c'est là que j'aurais gâché ma vie. Ce n'est pas le handicap qui vous gâche la vie, c'est la façon de le vivre. Mmh. Et donc c'est vraiment c'est de trouver cette force-là, la force de la vie, la force de l'aimer et de continuer à avancer. Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, ma vie, elle allait continuer. Donc soit je prenais le choix de perdre du temps et finalement de m'appuyer, de soigner sur mon sort. Soit je prenais la décision d'accepter ce que je vivais. Alors, je ne dis pas que c'était facile, je ne dis pas que je n'aurais pas aimé une vie différente, mais en tout cas, voilà, on a vraiment pris le courage de se dire que voilà, la vie, elle serait différente, mais qu'on avait plein de nouvelles choses à vivre et qu'il fallait s'engager dans cette voie-là.
Et je repense à ce que nous disait Grégory Cuiron tout à l'heure, c'est que finalement, c'est le regard des autres qui faisait de vous vraiment, enfin, qu'on prenait vraiment plus conscience qu'on était différent ou handicapé. Pour vous, les médailles, est-ce que... ça vous a procuré quelque chose de particulier ?
Non, parce qu'en fait, une fois que je me suis engendrée dans le parcours de sportif de haut niveau, j'étais à la recherche d'une excellence sportive.
Ouais.
Et finalement, ce que j'ai ressenti, c'est exactement la même chose que ce que vont ressortir tous les athlètes de haut niveau, c'est-à-dire de la satisfaction, de la fierté du travail accompli. Mais dès l'instant qu'on est dans ce parcours d'excellence, peu importe qu'on soit en situation de handicap, qu'on soit une personne valide, chacun a ses difficultés. Et c'est vraiment un parcours sportif que j'ai été chercher quand je me suis engagée dans mon sport.
Donc, est-ce que c'est une revanche sur le handicap ? Mais vous venez de plus ou moins répondre, mais je vous repose la question. Est-ce que c'est une revanche sur le handicap ou l'affirmation que l'on peut vivre avec et réussir de grandes choses ?
Non, c'est plutôt l'affirmation qu'effectivement, on peut faire énormément de choses. J'ai pas de revanche à prendre contre la vie. Il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Ça a été quelque chose de difficile, mais c'est aussi une forme de cadeau de la vie que de vivre des épreuves, parce que finalement, c'est dans la difficulté, c'est dans l'adversité, c'est dans la différence qu'on noue de nouvelles connexions, qu'on ouvre de nouveaux horizons et qu'on fait parfois les plus belles choses de sa vie.
Mmh. Virginie, c'est quand la prochaine compétition ? Allô ?
Oui, donc moi, la prochaine compétition...
Marie-Amélie, je vous appelle Virginie d'un seul coup. Il ne faut pas vous inquiéter, ça fait partie de ma différence aussi. C'est que moi, d'un seul coup, j'appelle... Enfin, j'ai un problème avec les prénoms.
Les prénoms changent.
C'est normal, hein, je vous appelle Virginie, donc vous ne répondez pas.
Voilà, Marie-Amélie,
c'est quand la prochaine compétition, pardon ?
Il n'y a pas de souci. Alors nous, la prochaine compétition, donc on a les championnats du monde l'année prochaine en novembre. Et vraiment, l'objectif le plus important pour moi, ce sera les Jeux paralympiques de Tokyo avec l'ambition d'avoir une nouvelle médaille d'or et pourquoi pas un nouveau record du monde.
Et vous allez aller nous décrocher ça, ma chère. Merci beaucoup, Marie-Amélie, pour votre appel et votre témoignage. Merci aussi à Julien, à Alexandre, Renaud, à Virginie, à Grégory et à Yves de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. On sent tout de même, à l'écoute de ces témoignages, une grande force et beaucoup de courage chez tous ceux qui nous ont parlé aujourd'hui. On sent aussi une volonté et un certain positivisme plus fort que les obstacles finalement liés au handicap et à la différence. Les épreuves de la vie, on l'a vu, n'ont pas eu raison des rêves ou des passions de nos témoins. On sent que lorsqu'elle est acceptée, une différence peut même être cultivée. Si tout n'est pas rose, être hors norme, ça peut être une façon de se distinguer aussi dans le meilleur finalement. Vous pouvez continuer à discuter de tout cela sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux, sur notre Instagram. Vous pouvez trouver chaque jour sur l'Instagram d'Europe 1 ou l'Instagram officiel, mon Instagram officiel. Vous pouvez trouver une question et voilà, parler de tout ça. On vous appelle au témoignage. J'ai été ravie de passer cette heure avec vous, ma chère.
Également, à demain, Olivier.
À demain. Demain, nous parlerons ensemble de la bisexualité, une sexualité souvent méconnue, qui connaît son lot de clichés et surtout d'incompréhension. Alors si vous êtes bisexuel et que vous vous assumez complètement, si vous vous interrogez sur votre éventuelle bisexualité ou si votre enfant est bisexuel, eh bien appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. J'ai été ravi de passer cette heure avec vous, chers auditeurs, à vos côtés, ma chère Ambline. Et puis je vous laisse maintenant avec l'excellente Laurence Boccolini qui aujourd'hui...
Allô,
vous êtes là? Oui, je ne vous vois pas.
Regardez.
Et vous avez accueilli ODB aujourd'hui.
ODB.
Qui veut dire
Olivier de Benoît.
Olivier
Benoist,
de Benoît.
Si vous voulez dire à la... Oui, vous avez tout prononcé.
Que nous n'avons plus besoin de
non,
présenter.
Non, c'est drôle, on va rigoler un peu. Ça fait du bien, tu vois, au début de semaine, comme ça.
C'est bon de commencer comme ça, hein.
Oui, après, il faut finir bien aussi.
Oui, c'est ça, ouais. C'est ça le problème.
Finir la semaine, quoi.
Bonne émission, les filles.
Ouais, merci,
bonne émission, Laurence.
Salut.
Et à demain, à 16h.
À tout de suite
à 15h, nous.
Oui, ouais. Donc, à Olivier Delacroix, demain, 15h. Et dans un instant, Laurence Boccolini sur Europe 1.
Europe 1.